France Inter.
Hello.
Hello.
It's Paul McCartney.
I mean, I'm in awe of McCartney. He's got the gift for melody. He's got the rhythm. He can play any instrument.
Okay, thanks a lot,
Mr. Paul McCartney.
I just like writing songs. It's a hobby, almost, you know.
Right, how you feeling? Good.
Do you have any idea of how many songs you wrote?
I never counted.
Yes, all right. And here we go.
Aujourd'hui, on va aborder la face baroque et orchestrale, parfois symphonique, de Paul McCartney. Ça a commencé, bien sûr, au sein des Beatles, mais cette perspective musicale s'est prolongée au-delà. Baroque, c'est un adjectif qui peut convenir à cette chanson, tellement connue, et qui, 56 ans déjà après sa parution, procure une joie intacte. Un final tribal évoquant d'une certaine façon les rythmes maoris de Nouvelle-Zélande pour conclure cette chanson Hello Goodbye, une des plus populaires des Beatles. La seule partie d'ailleurs qui trouvait grâce aux yeux de John Lennon, c'était ce final, enfin à ses oreilles, parce que celui-ci en fait n'avait pas une grande estime pour cette chanson, l'œuvre du seul Paul McCartney. D'autant moins que John aurait préféré que sa chanson à lui, I Am The Walrus, figure en face A de ce 45 tours, un single si vous préférez, un des plus populaires donc de la carrière du groupe. Hello Goodbye est une chanson qui est née comme un jeu. McCartney se trouvait chez lui avec un assistant du manager des Beatles et les deux se sont à un moment assis devant un vieil harmonium qu'il y avait dans la salle à manger. Paul a dit à l'autre, « Allez, joue une note, n'importe laquelle, un peu comme on dit, tire une carte. Maintenant, a poursuivi Paul, je vais dire un mot et toi, tout de suite, tu vas dire le contraire. » Alors, l'autre commence. Bonjour, salut. I say hi, you say hello. Et voilà, Hello Goodbye est né comme ça. And I say I don't know. La chanson paraît à la fin de l'année 67, peu de temps après la mort brutale du manager des Beatles, Brian Epstein. Soit au début d'une période où le groupe se retrouve brutalement livré à lui-même, période au cours de laquelle Paul McCartney va devenir peu à peu le chef de famille, malgré lui ou en forçant les autres. Ça, c'est un débat qui reste ouvert. Une position en tout cas qu'aucun des trois autres n'a vraiment envie d'assumer. Ce qu'on constate très clairement dans le documentaire Get Back, un fruit d'images tourné en janvier 1969 pendant l'enregistrement d'un album avorté et assemblé à partir d'images inédites par le cinéaste Peter Jackson.
On est très négatif depuis que M. Epstein est mort. C'est pourquoi, chacun notre tour, on en a eu marre du groupe. Il n'y a vraiment plus personne maintenant pour dire « vas-y, fais-le ». Mais papa est parti maintenant. Et on est livré à nous-mêmes. Et je pense que soit on rentre à la maison, soit on le fait.
Je viens de vous parler du premier papa des Beatles, Brian Epstein. Il y en a eu un autre, un papa musical, sans lequel tous ces jeux musicaux magiques n'auraient jamais donné tous leurs fruits. Je me rappelle que dans la presse de l'époque, on désignait parfois George Martin comme, je cite, « le cinquième Beatle ». Ça n'avait rien d'exagéré, il a été pour eux comme un jeune oncle savant qui a tenté de donner vie à toutes leurs idées musicales farfelues, surtout les plus farfelues. Alors, qui était George Martin ? C'était un homme né en 1926 qui était passé par la marine. Il avait voyagé à New York, à Trinidad, il avait étudié à Londres, dans un conservatoire, le piano, le hautbois et la composition. One, two, three, il s'était retrouvé en 1955, à 29 ans, à la tête des disques Parlophone, qui était une division de la firme EMI consacrée à la production des disques de variété. Or, and this is more interesting. One, two, three, four. One, two, three, four. Il mettait bien sûr la main à la pâte et supervisait toutes sortes d'enregistrements. Musique classique, air traditionnel des îles britanniques, comédie musicale, et puis aussi chansons de fantaisistes, comme on disait notamment celle des Goons. Alors les Goons, ça vous dit peut-être rien du tout, c'était un trio de comiques au sein duquel débuta le génial acteur Peter Sellers et dont les sketchs à la radio faisaient plier de rire les Britanniques dans les années 50. George Martin n'imposait en fait jamais des orchestrations aux Beatles, il les leur suggérait. Et puis très vite, ça s'est passé dans l'autre sens. Prenez une des chansons les plus connues du groupe, Penny Lane, là encore, l'œuvre du seul McCartney. Un mot sur l'origine tout de même de cette chanson, Penny Lane. Bah, Penny Lane, c'est la rue Penny, une rue en partie commerçante située dans le sud-est de la ville de Liverpool. Il y avait là un préau sur un rond-point sous lequel Paul et John se retrouvaient pour prendre le tramway. Un rond-point qui offrait une sorte de point de vue panoramique. La chanson se présente comme une série de photos commenté par Paul. Il y a la devanture du coiffeur italien, l'agence bancaire du coin et aussi la caserne de pompiers. En fait, elle était plus loin, mais enfin, ça amusait Paul de l'ajouter. Après, il ne s'agissait pas pour lui de décrire platement des éléments du décor de son enfance. Il se raconte des histoires comme le font les enfants, à partir d'éléments réels. L'employé de banque est un gars un peu louche, on ne sait pas trop ce qu'il trafique. Le coiffeur a fait de sa devanture une sorte d'installation artistique et le chef des pompiers, qu'il imagine, astique son camion avec une étrange passion. Et puis il y a aussi ces coquelicots en papier qu'une vendeuse ambulante propose le jour de l'armistice de la guerre de 14, une tradition en Grande-Bretagne. Plus quelques blagues, dont une graveleuse ajoutée par John Lennon. Bref, tous ces petits riens de la vie quotidienne qui font rigoler et rêver les enfants et que les photographes adorent épingler. Je reviens donc à la musique. Paul avait composé Penny Lane au piano. George Martin avait écrit une orchestration de cuivre et de vent, trompette, bugle, piccolo. Mais pour Paul, quelque chose manquait. Et le hasard a très bien fait les choses. Paul, un soir, a écouté à la télévision britannique, la BBC, une représentation par l'English Chamber Orchestra du deuxième concert brandebourgeois de Bach en fa majeur, si vous voulez tout savoir. Et le lendemain, il a décrit ce qu'il avait entendu à George Martin, qui a déchiffré. Je vois, s'est dit Martin, c'est une trompette piccolo, typique de Bach. Et quelques jours plus tard, le trompettiste David Mason, qui ne savait même pas qui étaient les Beatles, il vivait vraiment dans un autre monde, est arrivé au studio de Abbey Road avec un jeu de 9 trompettes. Paul s'est mis à chanter le solo qu'il avait en tête, George Martin l'a retranscrit, en a fait la partition, l'affaire a été vite pliée, Mason a joué la partition, il a rangé ses trompettes, et il a gagné pour ça à peu près une 20aine de livres sterling, mettons que ça aurait le pouvoir d'achat d'environ 600 euros aujourd'hui.
That's the attraction of George. Plus, of course, he's a very, very good producer. He's one of the best in the world.
I need music. Pretty well everybody does.
Any lane there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back.
Thank you. France Inter,
RTBF La Première,
Mishka Assayas, Very Good Trip, Paul McCartney.
Commençons par corriger une interprétation très répandue. Non, cette chanson qui s'appelle Fixing a Hole, hein, je comble une faille, hein, c'est moins moche comme traduction que je répare un trou, et qui figure dans le célèbre album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, n'a rien à voir avec les travaux de couverture auxquels a pu se livrer Paul McCartney dans sa ferme écossaise. Autre interprétation abusive, la chanson parlerait d'héroïne. Beaucoup entendaient « fix in a hole », donc se faire un fixe. Alors c'est une curieuse hybridation, « fixing a hole ». C'est une ballade swingante, avec des accords jazzy un peu rétro, sur laquelle George Martin a joué du clavecin. C'est une sorte, en fait, d'hymne à la délivrance de l'esprit au moyen de certaines drogues qui ne sont évidemment pas nommées. « Je voulais », explique en substance, bon, mauvais jeu de mots involontaire, pour McCartney, « je voulais abaisser toutes ces barrières qui m'entravaient. Fais pas ci, fais pas ça, sois raisonnable, ne rêve pas trop. » Les paroles de Fixing a Hole avaient de quoi, bien sûr, séduire les hippies de la période. « Je peins ma chambre de toutes les couleurs et où mon esprit vagabonde, voilà où je vais. J'interdis à la pluie, en somme, de toucher mes rêves. » Et puis, il y a cette formule à double sens, « And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right where I belong. » Soit, « Et peu importe si j'ai tort, je suis pile là où je dois être. » On peut aussi comprendre, « Peu importe si j'ai tort, là où je suis, j'ai raison. » Très hippie aussi. Cela dit, et c'est bien sûr la force d'une chanson, en particulier celle de Paul McCartney et de la poésie en général, le sens est irréductible, inépuisable et développe parfois des harmoniques profondes. Voici ce qu'écrit Paul McCartney dans son livre « Paroles et souvenirs » de 1956 à aujourd'hui. « Avant d'écrire une chanson, il y a un trou noir. Je me mets alors à la guitare ou au piano pour le combler. L'idée qu'il y a ce vide à combler n'est pas moins noble en tant qu'amorce à l'inspiration qu'un éclair qui fendrait le ciel. Dans les deux cas, cela relève du miracle. Je m'assois et vois du noir, un trou, un vide. Alors, je commence mon numéro de magie et 3 heures plus tard, je sors un lapin de ce qui ressemblerait à un trou mais qui était en fait un chapeau haute forme. Ou bien, il n'y a plus de trou noir à la fin de la séance, mais un paysage coloré. Voici une chanson, enfin un bout de chanson, pas tout à fait achevé pour être exact, qui s'appelle « You Never Give Me Your Money » et qui, collée à d'autres, figure sur la seconde face du dernier album que les Beatles ont enregistré ensemble à l'été 69, j'ai nommé « Abbey Road ». Alors il y a encore, dans la façon dont Paul a bricolé cette chanson, quelque chose de l'expérimentation sonore à laquelle les Beatles se sont livrés de 66 à 68. Ceux qui connaissent par cœur l'album Abbey Road se souviennent des sons de cigales, de clochettes, des chants d'oiseaux. Eh bien, ce sont des boucles que Paul a réalisées en utilisant les archives sonores des studios de EMI à Londres. Durant cette période, en 69, tout part en capilotade. John Lennon a déclaré aux autres qu'il veut partir, que les Beatles ne l'intéressent plus, mais personne, en fait, n'a le droit de le dire. Leurs finances sont dans un état catastrophique. L'aventure des disques Apple, gérée n'importe comment avec de grandes idées philanthropiques, a été un gouffre financier. Et Lennon a tiré de son chapeau un trouble homme d'affaires new-yorkais, Alan Klein, qui a la réputation de négocier de très bons contrats pour ses clients, oui, mais aussi de s'en mettre plein les poches au passage. Ce dont les Stones, qui avaient eu recours à lui aux États-Unis, s'étaient aperçus bien trop tard. Lennon est tombé dans le panneau, mais McCartney, lui, avait flairé l'embrouille et avait refusé de se lier à lui. Il s'était carrément opposé de front à Klein, qui, à la suite de Lennon, avait convaincu Harrison et Starr. Furieux, Paul a fait un procès aux autres, ce qui a rendu particulièrement acrimonieuse la séparation des Beatles. En tout cas, cette chanson évoque ces réunions désespérantes autour de l'argent avec des comptables, mais elle parvient à évoquer les choses avec légèreté et même humour, comme dans un dessin animé. L'argent est dans un grand sac marqué dollars qui part dans un gros camion jaune, on ne sait trop où, sans doute piqué par les raptous. Tu ne me donnes jamais ton argent et en pleine négociation, tu laisses tomber ou tu craques. Il y a les deux sens dans Breakdown, bien sûr. Et ça, c'est très McCartney. À la fin, il y a l'évasion, loin de tout ça, l'idée de partir loin avec Linda, sa nouvelle femme, un doux rêve. On prend les bagages et on monte dans la limousine. Je cite bien sûr les paroles mêmes de la chanson.
I break down.
Out of college, money spent. See no future, pay no rent. All the money's gone, nowhere to go. Any jobber got the sack. Monday morning, turning back.
So sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. Thank you.
Une des chansons les plus surprenantes de Paul McCartney, Uncle Albert, Admiral Halsey, faite de petits bouts accrochés les uns aux autres, une sorte de marabout bout de ficelle musicale. Si on compte bien, 12 micro-sections composent cette mini-suite de 4 minutes 50, un des passages les plus mémorables de l'album Ram, enregistré à New York et publié au printemps 1971. Sur la pochette, on voit Paul McCartney dans sa ferme écossaise, tenant un bélier, un ram en anglais, par les cornes. Un album qu'on présente de manière pas tout à fait exacte comme son deuxième album solo. C'est en fait le premier attribué à Paul et Linda McCartney, quelques mois seulement avant le tout premier de leur groupe Wings. Quelque chose dans cette façon de passer musicalement du coq à l'âne fait penser forcément à la seconde face de l'album Abbey Road des Beatles. On peut aussi penser, quand on entend Uncle Albert, au côté comique et enfantin de l'album Smile des Beach Boys, abandonné en chantier par le compositeur Brian Wilson en 67 avant d'être ressuscité. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Uncle Albert, l'oncle Albert, c'était un personnage réel, un oncle par alliance de Paul qui avait épousé une des sœurs de son père, Mildred, dite Millie. Un personnage qui, selon le témoignage de Paul, se situait un peu plus haut que le père de Paul sur l'échelle sociale et qui, pendant les fêtes de famille, dès qu'il avait un coup dans le nez, montait, paraît-il, sur la table et se mettait à déclamer des passages du Nouveau Testament. Quant à l'amiral Halsey, qui a commandé la troisième flotte des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, McCartney n'a plus la moindre idée aujourd'hui de ce que ce personnage vient faire dans cette affaire. Peut-être était-ce pour symboliser l'alliance entre lui, citoyen britannique, et sa femme Linda, citoyenne des États-Unis. Hands across the water, heads across the sky, mains jointes par-dessus les eaux, tête jointe d'un bout à l'autre du ciel. Dans cette chanson, Paul déconne, hein, si vous me passez l'expression, il imite la sonnerie coassante des téléphones fixes en Grande-Bretagne à deux notes brèves, hein, si caractéristiques. Il s'amuse à un moment à prendre un accent de la haute, un accent aristocratique, il change de rythme, de tempo, de style. Il y a un effet d'orage et de pluie, comme dans une chanson pour enfants, ce qu'assumait parfaitement Paul McCartney. Tout le monde connaît naturellement le rôle que sa femme Linda a joué dans sa vie. Remarquable photographe professionnel, excellente chanteuse et musicienne amateur, elle a entraîné, en fait, à ce moment-là, Paul vers une vie plus bohème, plus libre. Il l'a dit et répété, il avait grandi dans un milieu modeste, sans grande ouverture sur le monde extérieur. Et Linda l'a libéré de tout ça. Le terrain, néanmoins, était préparé. En Grande-Bretagne, dans la génération de Paul, les garçons de ces milieux pouvaient déposer une demande de bourse pour entrer dans une art school, institut de beaux-arts au Royaume-Uni. Il ne faut pas chercher plus loin, c'est pour cette raison que tous ces jeunes musiciens britanniques des années 60 qui faisaient du rock ont pu découvrir un autre monde inconnu de leurs parents, celui de l'art, de la photo, de la peinture, du théâtre et parfois de l'avant-garde artistique qui les ont naturellement mêlés à leur amour du blues et du rock'n'roll. Les Stones, les Kinks, les Who, David Bowie, Roxy Music, la liste est longue à l'infini. En tout cas, c'est à Londres que Paul McCartney a prolongé sa découverte d'un autre monde, et en particulier grâce aux Asher, les parents de sa première fiancée, Jane, chez qui il a longtemps logé, dans une chambre de bonne au dernier étage. Dans le livre de souvenirs qu'a écrit avec lui son ami londonien Barry Miles, un livre qui s'appelle « Many Years From Now » qui a été traduit en français, Paul évoque la famille Asher avec un mélange d'admiration, de tendresse et d'affection. Surtout Jane, sa fiancée, l'impressionnait beaucoup. Elle avait commencé à jouer la comédie, au théâtre et à la télévision, dès l'âge de 7 ans, tout comme son frère aîné Peter, également musicien, devenu le grand copain de Paul. Le père Asher était un grand médecin psychiatre et il avait cette douce excentricité toute britannique. La mère enseignait la musique, le hautbois et la flûte. Elle avait eu d'ailleurs George Martin comme élève. Et auprès d'eux, Paul apprenait. Il découvrait le théâtre. Il faisait la connaissance des amis artistes des Asher, comme le grand auteur de théâtre Harold Pinter. Et le père Asher l'a surtout initié à la peinture. En face de chez les Asher, sur Wimpole Street, dans le quartier de Marylebone à Londres, habitait le poète Edward James, un mécène très fortuné qui avait financé entre autres Salvador Dali et d'autres grands artistes du surréaliste. Il se trouve qu'avait logé quelque temps chez lui aussi le peintre belge René Magritte, qui a peint chez Edward James de nombreux tableaux, comme le célèbre Jeu de Moore. Vous savez, c'est ce tableau très connu qui représente un homme en costume gris, chapeau melon et cravate rouge, devant un parapet, dos à la mer, et dont le visage est rendu invisible par la présence incongrue et inexplicable d'une belle pomme verte venant d'être taillée de l'arbre avec ses quatre feuilles intactes. Une image dont McCartney se souviendra quand il faudra créer en 68 un emblème pour les disques Apple.
The concept of Apple is to bring together the artists of today with the methods and media of tomorrow.
France Inter,
RTBF La Première,
Mishka Assayas, Very Good Trip, Paul McCartney.
When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Thank you.
Une chanson un peu oubliée signée par le groupe Wings et qui, en 1978, a donné son titre à l'album London Town, l'avant-dernier du groupe. Je vais y revenir, mais avant, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas évoquer la chanson que vous avez entendue juste avant, Live and Let Die, la chanson-titre du James Bond de l'année 73, Vivre et Laisser Mourir. Paul McCartney avait été extrêmement flatté qu'on lui demande de composer une chanson pour un James Bond. C'était une commande ambitieuse qui le sortait de ses habitudes. Il a lu d'une traite le roman de Ian Fleming, dont le film était tiré, et la chanson, raconte-t-il, lui est venue tout de suite au piano. Vivre et laisser mourir, c'est une formule à laquelle un autre compositeur aurait donné un tour défiant ou menaçant. Pas McCartney. Chez lui, Live and Let Die, c'est plutôt n'en fais pas toute une histoire, laisse tomber. La chanson est un collage, ce qui est très inattendu pour la chanson d'un James Bond. La première partie est un prélude d'une trentaine de secondes, tout en douceur, assez insidieux et même trompeur, qui annonce une partie symphonique au rythme de cavalcade, écrite et orchestrée par George Martin. En tout cas, la structure témoigne de ce goût du collage surréaliste, avec la juxtaposition incongrue, apparemment absurde, d'éléments qui n'ont rien de commun. Ce qui crée une surréalité nouvelle, inouïe, une des définitions possibles du surréalisme que Paul McCartney a d'une certaine façon fait entrer dans la chanson populaire. Quand George Martin est parti pour les Caraïbes afin de faire écouter Live and Let Die à l'un des deux coproducteurs du James Bond en question, celui-ci lui a répondu « Elle est bien cette maquette, mais qui va interpréter la chanson ?» Bah, c'est Paul McCartney, a répondu George Martin, c'est quand même un des chanteurs les plus connus au monde. Le producteur a d'abord avoué son scepticisme avant d'accepter. Et pourtant, à l'été 73, la chanson a fait un tabac, elle est aujourd'hui encore la chanson tirée d'un film de James Bond la plus populaire au monde.
C'est Live and Let Die.
Juste après Live and Let Die, j'y reviens, vous avez entendu London Town. Là aussi, une composition qui glisse bizarrement d'une ambiance à une autre. Cette ballade, sortie en 78, a donné son titre à un album du même nom et elle évoque pas mal les Beatles, à cette différence près peut-être que le synthétiseur remplace les instruments de l'orchestre classique. Il y a un étrange passage reggae-funk à la fin. Enfin, c'est pas si bizarre que ça, ce sont des juxtapositions qu'on pouvait trouver dans la musique dite progressive qui battait son plein à la fin des années 60 et au début des années 70. Mais la particularité chez Paul McCartney, c'est que l'expérimentation se situe toujours dans le cadre de la chanson populaire, du tube que tout le monde va entendre à la radio. Et c'est très différent de la musique progressive qui quand même était réservée à un public de passionnés. Et puis dans les paroles, c'est lui qui le souligne, il ne sait pas très bien où il va. Une espèce de bonimenteur des rues aborde le personnage de la chanson et lui joue un air de flûte, tout, 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 mais c'est quoi cette flûte? On ne sait pas trop. Comme dans un rêve, la flûte glisse et devient le symbole d'autre chose. Tout, 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 en fait, c'est la coke que ce fameux bonimenteur a vendu au narrateur de la chanson, et un flic qui assistait à leur manège vient l'arrêter. Comme l'écrit Paul, « J'aime la liberté qui consiste à pouvoir introduire ce genre d'éléments dans une chanson sans la moindre raison. »
France Inter,
RTBF La Première.
Very Good Trip.
Up here anyway, Mr. Bellamy, this shouldn't take long.
In the delusionary state, no wonder he's been feeling strange of late.
Nobody here despises you, interfere with my plans. Bellamy's got a job to do, and he's hoping you'll understand.
Steady, lads. He does it. Don't frighten him. Here we go. Here we go.
I'm not coming down, no matter what you do. I like it up here without you.
Des compositions les plus étonnantes, les plus visuelles de Paul McCartney, Mr. Bellamy. Elle est extraite d'un album qu'on cite rarement parmi ses meilleurs et qui s'appelle Memory Almost Full, qui est sorti en 2007. Et pourtant, on peut y entendre certaines de ses meilleures chansons, comme celle-ci, là encore, un étonnant collage. La seconde partie de la chanson n'a rien à voir musicalement avec la première, en apparence. Alors, ça a peut-être un sens si on connaît le thème de la chanson. Mr. Bellamy, c'est un type qui est perché tout en haut d'un immeuble et qui s'apprête à sauter ou non. Alors en bas, les gens regardent, agglutinés. Les pompiers sont arrivés, la police aussi et sans doute également une équipe de psy. Une partie des badauds, animée par une sorte de désir morbide, a envie inconsciemment qu'il saute. Une autre, bien sûr, prie de toute force pour que Mr. Bellamy ne le fasse pas. La seconde partie de la chanson est une improvisation inattendue, une sorte de jazz klezmer, comme si la caméra qui nous avait révélé ce spectacle dézoomait, comme on dit, et que ce spectacle qui nous a tenus en haleine n'était plus qu'un point microscopique sur la surface du globe terrestre. Pour se quitter, une des plus belles chansons sur l'étonnement, l'incrédulité et aussi la terreur qu'un amour nouveau peut susciter en nous alors qu'on ne s'attendait plus à rien. Elle est de 2013 et s'appelle New, comme l'album dans lequel elle figure. Le vocabulaire auquel McCartney recourt est on ne peut plus simple. C'est celui d'un très jeune homme, mais on est tous très jeunes quand on aime. Ne me regarde pas, il est trop tôt pour voir ce que ça va être. Ne me regarde pas. Toute ma vie, je n'ai jamais su ce que je pouvais être, ce que je pouvais faire. Puis, nous étions nouveaux. Tu es arrivé et tu as fait de ma vie une chanson. Un jour de chance, tu es arrivé.
Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. We can is plain to see. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. And we were new. We can do what we want. We can live as we choose. You see, there's no guarantee. We've got nothing to lose. What's gonna be? Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new.
Ce numéro, le prochain abordera la veine rétro, swing et jazzy de Paul McCartney. Il me reste à remercier Josépha Lebrun à la réalisation, ainsi que Jérôme Ragano à la technique, sans oublier Romain Couturier et François Merlin à la discothèque de Radio France.
Let's rock, à bientôt.